Je reçois dans cet épisode Chloé Sarazola de chez Nassoa. Elle nous parle de sa passion pour les pierres comme personne, son don pour sa connexion à leur conscience et aux messages qu'elle nous délivre, et nous partage sa plus belle transformation grâce à une pierre en particulier. Chloé sera avec nous dans la communauté High Vibes le 21 février à 20h. Il s'agit d'un atelier en ligne, l'accès est totalement gratuit, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui se trouve dans la description de l'épisode ou sur le compte de la communauté Instagram High Vibes. Je pense avoir tout dit, je vous laisse découvrir notre discussion. Est-ce que tu peux commencer par te présenter comme tu as envie ?
Je m'appelle Chloé, j'habite en Belgique. Ma formation, donc je suis gémologue et diamantaire. La gémologie, c'est une branche de la géologie qui étudie que les pierres dites précieuses, mais aussi les pierres opaques, les pierres ornementales. J'ai également fait toute une formation sur le diamant à Anvers. Je me suis spécialisée ces 20 dernières années sur le terrain. Donc vraiment, on va dire, ma force, c'est l'achat du brut, la taille, la transformation. J'ai une boutique en Belgique à Overijs où je vends toutes les pierres de mes voyages. Et puis j'ai une autre casquette que j'aime beaucoup, c'est celle d'enseignante. Donc je prends beaucoup de temps, je crée le temps pour en fait, on va dire, proposer des stages, des formations. J'anime des cérémonies. Donc la transmission de l'information pour moi est très très importante. Voilà. J'ai aussi créé un label, le label Country Stones, qui permet en fait de tracer toutes les pierres de la mine, on va dire, à la boutique. Et ça, c'est vrai que c'est une plus-value pour moi en fait de pouvoir assurer un côté éthique des pierres qui peuvent raconter l'histoire de la personne qui la trouve jusqu'à la personne qui va l'acquérir.
Dis-nous un petit peu comment t'en es arrivé là, parce que c'est quand même un métier assez atypique.
Oui, donc en fait, je peux pas te dire que ma passion pour les pierres, je l'ai depuis mon plus jeune âge. Elle est arrivée plus tard dans ma vie et donc j'ai fait des études en kinésiologie. Mais c'est vrai que cette casquette de thérapeute, en tout cas, n'a jamais vraiment fort résonné avec moi. Et mon mémoire de fin d'études, je l'ai fait sur les propriétés des pierres. C'est-à-dire que je suis assez scientifique, cartésienne, et j'avais vraiment envie, en fait, de comprendre, de découvrir les propriétés des pierres. Et je m'étais dit que ce mémoire, enfin, ce travail de fin d'année pouvait, en fait, être l'occasion de faire des recherches, d'approfondir le sujet. Puis j'ai présenté mon travail et la directrice de l'école m'a dit, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec le monde minéral. On sent que tu es bien connectée. Donc j'ai obtenu mon diplôme et puis je suis partie pendant 2 ans. J'ai voyagé un peu partout dans le monde. Pour moi, c'était important de nature curieuse, d'aller sur le terrain, de voir comment est-ce que les pierres grandissaient, qui étaient les personnes les extrayaient de la terre, comment est-ce qu'en fait on pouvait les valoriser, comprendre le marché. Donc j'ai beaucoup voyagé. Et puis, une année, je suis rentrée avec du verre coloré vert en pensant avoir acheté des émeraudes. Et là, je me suis dit, c'est bien d'avoir cette connexion plus énergétique, mais finalement, s'il me manque la connaissance scientifique des pierres, bah, en fait, ça n'a aucun sens. Et donc là, j'ai eu donc l'idée de recommencer des études après la kinésiologie, de faire ces études de gémologie à l'École royale belge de gémologie, puis j'ai fini mon cursus à l'Université de Nantes. Et c'était chouette parce que plus j'apprenais, plus j'étudiais les pierres dans la matière, plus je connectais en fait les propriétés plus énergétiques, vibratoires, parce que pour moi, énergie et matière, ce sont vraiment les deux faces de la même pièce. Et en fait, j'ai beaucoup appris, oui, dans les livres, à l'école, mais je pense que en fait, plus j'avance sur ce chemin, moins j'ai l'impression de connaître, et plus j'app et en fait, j'apprends vraiment sur le terrain. Pour moi, c'est vraiment là toute ma richesse, ma plus-value, c'est tout ce qu'on va me raconter autour de la pierre quand je suis à la mine avec les personnes qui vont autant me raconter les histoires de leurs anciens. Et puis moi, en fait, en fonction des propriétés des pierres, je peux faire les liens avec le côté matériel de la pierre. Si je trouve une pierre au pied d'un volcan, bah, c'est sûr qu'elle va pas avoir la même énergie que si je la trouve dans une grotte froide et humide. Et donc c'est vrai qu'observer comment la nature fonctionne, d'abord, est une énorme source d'inspiration. Je dis toujours, cherche le beau, tu trouveras le vrai. La nature, elle est belle, elle est généreuse, elle est abondante. Ce que la terre crée dans le minéral est juste fascinant. J'ai pas d'exemple ici à vous montrer, mais j'étais à La Rioja en Espagne, j'ai trouvé des parfaits petits cubes, cristallisation cubique ordonnée, magnifique. Enfin, la nature crée la perfection, et ça, je trouve que voilà, c'est un modèle d'inspiration énorme pour moi. Et puis, personnellement, de nature très agitée, où je pars un peu dans toutes les côté direction, porter une pierre, ça me permet en fait d'aller reconnecter cet état d'alignement, de silence, d'immobilité, pas d'immobilisme, d'immobilité, c'est-à-dire vraiment que quand je suis à ma juste place, finalement je ne cours plus derrière mes objectifs me trouvent. Donc voilà, très belle source d'inspiration en tout cas pour moi, le règne minéral. Après, je ne sais pas du tout si j'ai répondu à ta question, j'ai l'impression que je me suis en...
Moi, j'avais envie de te poser une question parce que j'ai assisté à un de tes ateliers, notamment à l'abbaye de Villers-la-Ville. Et j'ai été assez impressionnée de voir que donc, tu avais proposé une lecture de pierre. Je pense que c'était comme ça que tu l'appelles. Et en fait, ce qui est impressionnant de voir, on sentait vraiment que dans un premier temps, c'est ton mental qui parle. Là où je trouve que c'est impressionnant, je voulais un petit peu que tu nous expliques ce qui se passe chez toi. C'est qu'il y a un moment donné où on sent très vite que ça bascule complètement dans l'intuition. Je ne sais pas comment l'appeler. On sent que tu rentres dans un espèce de flow. Il y a un flow d'informations qui arrive, où tu arrives à mixer l'information que la pierre te donne et l'information tirée de la personne, de la vibration de la personne, de ce qu'elle dégage. Mais on sent même que la vibration change chez toi et dans la pièce. Quel est un peu ton ressenti, toi, par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as cherché à développer ou est-ce que c'est venu naturellement? Et est-ce que toi, tu sais un peu définir et expliquer un peu ce qui se passe?
Oui. Je vais rebondir sur ce que tu disais. Tu disais une intuition, je pense que tu parlais d'intuition.
Oui.
Moi, ça me parle de plus te dire état de réceptivité. Je pense qu'on est tous... Alors, il y a des personnes qui vont te dire que c'est de la clairvoyance, il y a des personnes qui vont dire que c'est du channeling. Moi, je n'utilise pas trop ces mots-là parce que je trouve que c'est trop perché et j'ai envie de ramener ça dans quelque chose qui est presque normal. Je pense qu'avant qu'il y ait la matière, il y a de l'énergie. Et je crois qu'on s'est tous un peu, comment dire, enfermés dans la matière, mais surtout, si tu veux, dans la finalité de celle-là, oubliant qu'avant ça, il y a une vibration, il y a une énergie, il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible qui, quand cette onde, une longueur d'onde, va connecter la matière va se façonner à ça. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que je pense qu'on est tous complètement capables, en fait, de sentir les choses, sauf qu'on ne nous a pas appris et parce que je pense qu'on est vraiment, comme je te dis, limité par ce que nos yeux vont voir, alors qu'il y a des perceptions extrasensorielles et je pense que ça, tout le monde l'a. Ce n'est pas un don, ce n'est pas un talent. Je pense qu'on est des êtres de lumière qui sont venus faire une expérience terrestre. On n'est pas des pauvres terriens qui essayent de connecter quoi que ce soit là-haut. Et je crois que la clé de ça, c'est la réceptivité, c'est créer un espace de vide où l'information peut venir à toi. Si je te rencontre et je te vois, je vais te voir avec mon filtre, avec mes humeurs, mes émotions, avec tout mon monde émotionnel, toute ma complexité. Si je décide de faire un pas en arrière, tu vois, et juste d'observer, en n'étant pas dans Chloé, mais en étant dans quelque chose qui finalement est le tout, est infini, alors je vais avoir un autre type d'information. Au quotidien, je ne peux pas vivre comme ça parce que j'aime bien incarner qui je suis, j'aime bien être dans ma personnalité, j'aime être un être émotionnel. Mais ce que tu peux parfois observer, c'est une fraction de seconde où tu vas voir que ce n'est pas que je me déconnecte, c'est juste, j'aime bien l'idée, je fais un pas en arrière, tu vois, et j'observe. Et du coup, j'enlève les filtres, j'enlève les systèmes de croyances, j'enlève tout ce qui peut limiter ma compréhension des choses. Je crée un espace de vide. Et puis, dans ce vide va, en fait, arriver l'information de la personne. Alors, je pourrais le faire sans les pierres. Je ne le fais pas parce que, justement, j'aurais presque l'impression... J'aurais peur de basculer en ce côté trop ésotérique. Je trouve que les pierres me ramènent à quelque chose d'un peu plus concret, tu vois. Si la personne me prend une hématite... Ben oui, je vais lui dire, je vais lui parler de son énergie, de sa vitalité. Et elle va peut-être me dire, ah ben oui, ça me parle, parce que pour le moment, je suis fort fatiguée. Et je vais lui dire, ben voilà, c'est une pierre qui contient du fer. Le fer, c'est le F-E-R, mais c'est le fer F-A-I-R-E. Donc, dans ta vie, où est-ce que tu es en train de mettre toute ton énergie qui part, qui fout le camp, qui fait que le matin, tu ne sais pas te lever, tu vois? Et donc, en fait, grâce à la pierre, la pierre est un peu un support matériel dans lequel je vais plonger pour raconter, en fait, l'histoire de la personne, mais... Au final, ça reste quand même la personne qui me choisit les pierres, tu vois. Il se peut que je pourrais avoir la même information sans les pierres, mais ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'alors, je serais dans un échange plus thérapeutique et ça, je n'ai pas envie. J'ai vraiment envie de rester au service du minéral. J'aime profondément l'humanité, mais je pense qu'il faut reconnaître, comment te dire, dans quoi on est bon. Et je sais que thérapeute, c'est pas mon truc. Par contre, traduire le langage des pierres, décoder ce qu'elles nous ont à dire, ça, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Et je pense vraiment, si j'invite les personnes qui nous écoutent à essayer. Parce que même pour soi-même, ça fonctionne. Quand on est vraiment le nez dans le guidon, quand on a la tête dans le brouillard, quand on cherche les réponses à nos questions, les solutions à nos problèmes, on attend toujours que ça vienne de l'extérieur. Mais si on ne crée pas un moment, tu vois, de vide, alors les réponses ne savent pas nous trouver. Les objectifs ne savent pas nous trouver. C'est pour ça que c'est intéressant des fois de se poser, de passer par l'inaction. Et c'est ça aussi l'état, c'est l'inaction. C'est-à-dire que je ne cherche pas en fait à essayer d'aider, de solutionner. Non, je suis en matière très neutre et je me dis ok, mais qu'est-ce que je ressens? Et puis c'est très personnel, il y a des gens qui vont avoir une information plutôt auditive. Moi c'est fort visuel, j'ai souvent des flashs, tu vois, un peu. Donc ça peut m'aider comme support. Et puis parfois une info, un feeling. Et plus on le fait, bah plus en fait ça s'affine. Et je crois que si je donne un exemple tout simple, c'est comme quand vous rentrez dans une pièce, vous allez avoir une ambiance, vous allez avoir de l'information alors que personne ne parle, on ne vous communique rien de l'ordre du verbal, mais vous sentez les choses. Il y en a qui vont parler d'une aura, il y en a qui parlent de perception extrasensorielle. Moi, j'aime bien dire l'ambiance, parce que l'ambiance, ça parle un peu à tout le monde. C'est Franck Lobvet, un jour, que je suis, j'adore, j'écoute tous ses podcasts, qui avait dit ambiance, et je lui vole son mot, parce que je trouve que du coup, ça remet un peu les pieds, les choses, comment te dire, ça rend accessible, voilà, l'information. Et donc, pour tout dans ma vie, je fonctionne comme ça, tout. C'est-à-dire que j'essaye de passer du mental à qu'est-ce que je sens. Et pour les choses les plus... Encore ce matin, avec mon compagnon, on parlait. Et puis, je lui ai dit, mais je sentais que ça allait bien se passer. Et pourtant, il n'y a rien de très rationnel. Or que l'histoire sur laquelle on était, bah, c'est quelque chose de très concret. Donc, moi, je viens avec mon intuition. Mais je ne vais pas t'expliquer différemment. Je sentais que ça allait bien se passer. Donc, notre responsabilité, c'est que quand on sent que ce n'est pas, bah, c'est surtout pas y aller. Parce que si on y va, alors ce qu'il y a, c'est qu'on joue contre nous. On travaille contre nous. Et c'est là où on commence à perdre confiance, en fait, à notre ressenti. Donc, c'est toujours hyper important de rester intègre par rapport à vraiment la première information qui vous vient, qui est la meilleure, parce que c'est celle qui est intuitive, elle est là. Et puis après, elle va être filtrée, scannée par notre système de croyance et tout ça. Et puis, elle devient un petit peu... elle perd de sa consistance. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'était clair ce que je viens de te dire là.
C'était super clair. J'avais une autre question aussi. Tu vois, on achète tous des pierres aujourd'hui. J'en ai moi chez moi des centaines. Mais j'ai toujours un peu cette frustration finalement de... J'adore rentrer dans le genre de boutique que tu as, d'y aller à l'intuition, de prendre la pierre qui m'attire, qui me parle, qui m'appelle. Mais finalement, on sort de là, on va déposer cette pierre soit sur soi, dans son sac à main, chez soi, on va y aller aussi intuitivement. Mais finalement, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer concrètement quelle est la meilleure démarche à avoir pour que cette pierre, alors n'ait pas un impact dans notre vie, parce qu'on est bien d'accord, ce n'est pas une pierre qui va changer notre vie, mais comment est-ce qu'on peut profiter justement de la puissance de ces pierres ?
C'est marrant parce qu'un jour, j'ai entendu mes collègues qui disaient « Bonjour, bienvenue chez Nassoa. Voilà, ben, vous faites comme un enfant, comme si c'était un magasin de jouets et vous allez vers la pierre qui vous parle ou qui vous attire. » Et en fait, je trouve que l'attitude de l'enfant est assez intéressante parce qu'on ne cherche pas quelque chose, comment te dire, qui va solutionner. Parce que voilà, comme tu dis, moi, je pars vraiment du principe, je le dis à chaque fois, tous les jours, la pierre ne va absolument pas faire le boulot à notre place, ce serait trop facile. Par contre, la pierre est la matérialisation d'une information qu'on a envie de mettre dans notre vie aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, j'ai envie de, je sais pas, de bosser ma communication, de me sortir plus aligné, d'ouvrir mon chakra du cœur, en fait, on va aller chercher la pierre qui correspond vraiment, si tu veux, à cette longueur d'onde-là, comme un instrument de musique qui aurait besoin de s'accorder à cette vibration-là. Et je trouve que l'attitude de l'enfant intérieur, c'est... elle est positive parce qu'on y va avec la joie de vivre, on n'y va pas avec il faut trouver une réponse ou il faut solutionner comme si on était... des êtres, tu sais, cassés, abîmés, qu'il fallait constamment réparer. Et on doit faire du développement personnel et on doit travailler sur soi. Enfin, moi, je pense que la vie, elle s'occupe très bien de nous faire avancer. Je crois qu'il ne faut pas rajouter une couche à ça. Et tu sais, je donne toujours l'exemple de mon boulot. Quand les gens veulent faire une réorientation professionnelle et tout ça, on cherche souvent, tu sais, à donner un sens, à trouver un projet messianique et tout. Et moi, je dis toujours, mais en fait, moi, ce qui m'anime avec Nassoa, vraiment, j'ai déjà dit 150 fois, mais c'est que j'ai vraiment cette impression de jouer au magasin. Tu vois, le matin, quand je me réveille, je passe l'aspirateur, je fais des poussières, je mets les bougies, je mets mon encens, j'ouvre les portes, je dis bonjour, bienvenue chez Nassoa. C'est vraiment la petite en moi qui joue au magasin. Et je trouve que cette attitude-là, qui est finalement dans la reconnexion de la joie de vivre, c'est celle qui nous permet le mieux de faire des choix qui soient justes avec nous. Donc quand tu rentres dans la boutique, tu vois une pierre, bah, c'est laquelle qui te parle le plus, tu vois. Tu n'as même pas besoin de savoir comment est-ce qu'elle s'appelle, ou même pas te dire, mais de quoi est-ce que j'aurais besoin. Et des fois, il y a des gens qui me disent, oh, mais je les achèterai toutes, et je leur dis, bah alors n'achetez rien, parce qu'en fait, c'est tout va bien, tout est aligné, tout est OK. Et puis, tu as des gens comme ça qui ont pris la pierre, et même à la caisse, ils veulent même pas me la donner pour que je l'emballe, parce que tu sens vraiment qu'il y a un lien, un attachement. Il s'est passé un truc, il ne faut pas toujours chercher à comprendre. Après, quand on plonge un peu dans la matérialité de la pierre, ben, on comprend qu'effectivement, ben, la pierre, elle a peut-être cette cristallisation qui convient à la personne, cette composition chimique, cette dureté, cette couleur, tu vois? Mais au final, on s'en fout. Je pense que c'est ça, passe vraiment ça qui est important. Ce que j'aime vraiment, c'est la connexion entre l'humain et le règne minéral. Les pierres, elles ont entre 100, 150, 300 millions d'années. Donc, on n'est même pas dans les mêmes temporalités. Donc, je trouve qu'il y a énormément de sagesse aussi quand tu travailles, enfin, je ne vais pas dire travailler, quand tu t'accompagnes de pierre. Des fois, il ne faut même pas connaître le nom, il ne faut même pas savoir ce qu'elle fait. Mais voilà, elle te connecte à quelque chose et je sais que le taf, il se fait. Voilà, même peut-être de l'ordre de l'invisible, je ne sais pas, mais rien que par le fait que la pierre, elle a son âge, par la manière dont les atomes se sont agencés dans l'espace. Bah, il y a un truc qui se fait, c'est une vibration, tout est vibration. Mais le cristal est cristallisé, donc c'est une vibration encore différente parce que c'est une vibration de perfection. Et je trouve que dans nos vies où on a besoin parfois de reconnecter, enfin, de retrouver notre verticalité, tu sais, voilà, de s'organiser, de s'ancrer, de ne pas partir dans toutes les directions, bah, je trouve que le minéral est soutien, support, tout comme le végétal qui va travailler d'une toute autre façon. Tu vois, ou tout comme l'animal, il y a des gens qui communiquent avec les animaux qui sont, c'est d'autres fréquences. Donc voilà un petit peu l'état d'attitude intérieure, je te dirais l'enfant, la personne qui est dans la joie de vivre et qui se dit waouh, comme c'est beau, vers quelle pierre est-ce que j'irai? Voilà, de manière très intuitive, très spontanée, il faut rien connaître pour travailler ou pour utiliser les pierres, rien. Plus on apprend, plus en fait, je fais l'impression qu'on s'éloigne de ce côté spontané, quoi. Et ceux qui fonctionnent le mieux ou ceux qui ont le plus de résultats, c'est les enfants, tu vois, qui passent à la boutique et en fait, ils se posent pas de questions. Et en plus, souvent, les pierres qu'ils vont choisir, c'est même pas pour eux, c'est souvent pour leurs parents, tu vois. Donc, c'est encore plus intéressant.
Du coup, pour toi, c'est pas nécessaire de mettre une intention spécifique sur une pierre. Tu vois, on sort de ta boutique avec notre pierre. Qu'est-ce qu'on fait concrètement?
Oui, bah alors du coup, par exemple, tu choisis une pierre, tu me dis, écoute, voilà, Chloé, c'est celle-là. Alors évidemment, on va donner l'information. Tu rentres à la boutique, tu as 150 cartes avec la symbolique sur tous les murs, tu as les petits cartons, on donne l'information, tu vois, parce qu'on n'a pas envie d'être collé au plafond en mode, bah voilà, cette pierre-là, non, on revient dans la matière, on donne l'information, on explique comment ça fonctionne, pourquoi faut les nettoyer, pourquoi faut les recharger, c'est hyper important, le cristal est cristallisé, c'est le meilleur des réceptacles sur la Terre pour capter de l'information, tu vois. Une rose va éternellement garder sa forme de rose grâce aux petits cristaux de quartz dans les cellules qui permettent de stocker l'information de la rose. Donc tu vois, le monde minéral, c'est vraiment une bibliothèque, c'est une continuité de mémoire. Donc tout ça, on donne comme information. Et c'est clair que poser tes intentions, c'est important. Parce qu'on reste le créateur de notre propre vie, tu vois ou pas? La pensée crée. Donc, si on ne sait pas, ben, on va vivre du je sais pas. Si dans mon équation énergétique, il y a l'information de ce monde est hostile, les hommes ne sont pas fiables, je suis en sécurité, ben, ma signature vibratoire va faire que je vais en faire l'expérience, tu vois? Donc, c'est hyper important à travers la pierre qui va capter l'information, c'est ce qu'on appelle une mémoire éonique. Ça a été le travail de mon sujet de mémoire sur la capacité d'un cristal à capter une information. Une information, c'est une énergie. Tout est énergie. Tu peux y mettre un rayon de soleil sous forme de photon. Tu peux y mettre une énergie thermique, une énergie. D'ailleurs, certaines pierres sont triboélectriques, piézoélectriques. Tu peux y mettre une intention. Une intention, c'est une vibration, tu vois. Et c'est clair que le fait de porter du coup ta pierre en bracelet, de la mettre sous l'oreille et de la mettre sur une table de nuit, bah, va t'inviter à te mettre à résonner cette énergie-là. Si tu vois tout le temps ta chalcédoine bleue qui est le calme et le repos, c'est ton intention aujourd'hui, bah, tu vas pas me dire qu'il va pas y avoir un effet sur toi, c'est certain. si tu mets tous les jours ton bracelet, là j'ai mis un bracelet de protection, pas parce que je veux mettre un bouclier parce que ce monde est hostile, mais parce que je veux reprendre ma propre responsabilité à me protéger, bah, du coup, c'est ça que je veux envoyer comme message à l'univers, tu vois. Mais tu pourrais le faire avec un gris-gris, tu pourrais le faire avec un doudou, tu pourrais le faire avec ce que tu veux, mais le minéral, il est riche, lui, de par qui il est. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de s'accompagner, du coup, d'un cristal, tu vois, qui est la différence entre un caillou et une pierre. Un cristal est cristallisé.
Et est-ce que tu pourrais nous partager peut-être une histoire personnelle que tu as vécue avec une pierre ?
J'en ai mille des histoires. J'en ai mille parce que, en fait, pour être très honnête avec toi, je ne peux te parler d'une pierre que si... Je l'ai un peu intégré, tu vois, et encore, parce que les choses qui sont intégrées, j'en parle plus, parce que c'est plus mon sujet. Chaque voyage, ça a été vraiment, je vais te dire, ouais, peut-être, l'améthyste, parce que chaque voyage a été initiatique, chaque voyage a été l'enseignement de la leçon de la pierre pour que je puisse, du coup, transmettre l'information. La petite, elle avait 1 an. Et elle traversait une phase un peu compliquée, en tout cas avec moi. Elle était dans le rejet total de moi et c'était toujours sa maman, son papa. Et je le vivais très très mal. On me disait oui, c'est le complexe d'Œdipe, mais à 1 an, j'y croyais pas trop. Et elle était dans les bras de son papa un jour, dans la cuisine. Et elle me dit, mais elle parle pas, donc de nouveau, l'information que je reçois. Et toi, il est où ton papa, maman ? Donc, je me prends en pleine figure. Moi, mon père, je l'ai vu peut-être 3 fois dans ma vie. Il habite en Uruguay. Et là, je me dis, OK, elle me donne une piste. Il est où, mon papa ? Et je me suis dit, OK, je dois faire quelque chose avec cette information. Et j'ai toujours sur mon téléphone une liste de toutes des mines que je voudrais aller visiter. Et en bas de cette liste, il y avait le Brésil améthyste. Mon père habite à la frontière avec le Brésil. Et je me suis dit... Ok, quand elle me demande « Il est où mon papa ?», elle est en train de me dire « Il ne serait pas temps d'aller voir ton papa. » Ni une ni deux, parce que moi c'est comme ça, c'est le Sagittaire, j'envoie ma flèche et puis je réfléchis où elle est partie, hyper spontanée. J'appelle mon père, je dis « Voilà papa, en fait j'ai envie de te voir, j'ai besoin de te voir, j'ai envie de te présenter ma famille. On vient dans 3 jours. » J'avais déjà regardé les billets d'avion. Et 3 jours après, on était dans cet avion pour partir au Brésil. Et je lui dis, si tu veux, tu peux nous rejoindre parce que, pour ne pas faire de jeu de mots, faisons une pierre deux coups. On peut se rencontrer au pied des mines d'améthyste. Comme ça, moi, je vais voir les pierres, je vais visiter les carrières. Donc, il nous rejoint. Et en fait, je n'avais pas réfléchi. Mais ça s'est très, très mal passé, nos retrouvailles, parce que, en fait, mes parents se sont séparés quand j'avais 1 an. Et moi, j'arrive avec une miniature de moi qui a 1 an. Et donc, mon père a vraiment, mais pas du tout bien géré le truc parce qu'il a fait un pseudo-transfert où ma fille, c'est devenue moi. Moi, je suis devenue ma mère avec qui il n'a jamais réglé ses comptes. Et donc, c'est parti, mais complètement en vrille. Et j'étais dans les carrières d'améthyste et je pleurais devant ces pierres. Et le mineur à côté de moi, il ne savait pas si je pleurais parce que j'étais touchée par la beauté de la pierre ou si ça n'allait vraiment pas. Et je pleurais. Et à un moment donné, vraiment, j'ai dit à la pierre, mais aide-moi parce que là, ça ne va pas aller, je vais mourir. Et en fait, de nouveau, état de réceptivité où on essaye de se dire qu'on n'est pas notre émotion. Il y a un état de quiétude, de sérénité qui existe en moi, donc je ne suis pas l'émotion, je fais un pas en arrière. Et j'entends une phrase qui me disait « Oui, les améthystes, c'est des pierres de deuil. » Et c'est vrai qu'on m'avait dit que les améthystes, c'était des pierres de deuil, des pierres de soutien. Et en fait, j'ai vraiment cette image de là que c'était le moment de faire mon deuil du papa dans la matière, tu vois ou pas ? Parce que je pense que à l'époque, je ne sais plus quel âge j'avais, je vais avoir 35, 36 ans, ouais, ça faisait 36 ans que j'attendais toujours que mon papa, biologique mon père, soit mon père, tu vois, la tante de la petite fille. C'est pour ça que la petite, elle me disait, mais il est où ton papa ? Parce qu'elle, dans l'énergie, elle captait bien cette insécurité paternelle. Et en fait, l'améthyste devant moi m'a vraiment dit, il est temps que tu fasses ce deuil, que tu n'attendes plus. Parce que le fait que tu attendes t'empêche de faire une reliance, de te faire une connexion avec le père spirituel. Donc moi, je vivais dans des insécurités permanentes. Comme il n'y avait pas de papa, tu vois, comme il y avait l'attente que le papa prenne sa place, il y avait un manque de connexion avec là-haut, donc toujours la peur, et d'ailleurs j'ai toujours mes épaules un peu relevées, qui m'arrive une tuile, qui me tombe un truc dessus, tu vois ou pas. L'insécurité totale au niveau d'une protection. Et en fait, j'ai vraiment fait le deuil définitif, pas du père, mais de la relation, de l'attente que j'avais avec mon papa grâce à ma fille, et je la remercierai toute ma vie pour ça. L'améthyste m'a vraiment fait comprendre que de par sa couleur violet, tu sais, violet évêque, c'est la couleur du chakra coronal. Donc ouvre ton chakra, connecte-toi là, demande là-haut. Si tu n'as pas une protection d'un père dans la matière, mais demande une protection d'un père spirituel. Et ma vie, je te jure Frédéric, ma vie a changé ce jour-là. Je ne sais pas t'expliquer. Il y a comme si j'avais installé dans chaque petite cellule de mon corps, tu es infiniment aimé et protégé. Ce que le père devrait te dire. Tu vois la sensation que le père... en fait, c'est ce que le papa te donne. Et là, comme il n'y a pas eu, je me suis branchée à là-haut. Je ne dis pas que ma vie a changé, mais je dis que mon regard par rapport aux expériences qui se mettent sur mon chemin change. C'est-à-dire qu'on n'est plus contre moi, on n'est plus à vouloir me tester, on n'est plus, tu vois, à vouloir m'abandonner, parce que c'est clairement l'abandon que moi, quand j'ai comme blessure, abandon, injustice, rejet. Et donc, tout ce qui s'est mis sur mon chemin, je ne l'ai plus vu avec ce filtre d'insécurité liée au père. Je me suis dit, ok, envoie-moi tout. Envoie-moi l'histoire d'amour, envoie-moi le chagrin d'amour, envoie-moi l'abondance, envoie-moi l'échec et la banqueroute, envoie-moi tout. Parce que je sais qu'en fait, comme je suis infiniment aimée et protégée, ça me permet de grandir. Je ne sais pas si tu vois. Donc, voilà, des histoires comme ça, j'en ai 1000. Enfin, non, je n'avais pas 1000. J'en ai au moins 150, vu qu'il y a 150 pierres dans la boutique, mais pour chacune, je peux te raconter ce qui s'est passé, le déclic, la compréhension, tu vois. Et c'est pour ça que je les aime, parce qu'en fait, je les aime, mais en fait, j'ai appris à m'aimer moi personnellement à travers les pierres, tu vois. Et l'améthyste qui était ma pierre, comme je te dis, elle était en bas de la liste, ma moins préférée, parce que je trouvais qu'elle était tellement cliché, tout le monde voulait de l'améthyste et tout. Eh bien, c'est devenu ma favorite. Je l'aime d'amour parce que voilà, je trouve que se dire qu'on est infiniment aimé et protégé, ça n'enlève pas les peurs. Parce que quand on a peur, c'est parce qu'il nous manque l'information. Donc, une peur va toujours m'aider à aller chercher l'information. Mais je vais souvent la chercher là-haut, l'info. Parce que je pense que l'info qui nous vient de là, tout ça, c'est un peu plus pour nous désinformer. Donc, voilà un peu une connexion avec une de mes pierres préférées.
Pour terminer notre petite conversation, est-ce que tu pourrais nous donner, d'après toi et d'après tes ressentis, la pierre qui pourrait nous soutenir en 2024
2024, écoute, les énergies de 2024, perso, moi 2023, 2022, 2023, c'était vraiment compliqué, tellement confrontant, difficile à tout niveau, j'avais l'impression qu'il fallait prendre le train ou... Enfin, fallait y aller, quoi, tu vois, hyper confrontante. Et 2024, déjà, j'ai le 4, j'ai un truc qui a plus... une énergie plus de stabilité, d'ancrage, tu vois. Moi, je te donnerai pas une pierre. Je vous conseillerais, si vous cherchez un peu l'info, c'est très facile à trouver. Trouvez des pierres dont le système cristallin, vous tapez, même Wikipédia, vous allez voir système cristallin, c'est comme je disais tout à l'heure, la façon dont les atomes vont s'agencer dans l'espace, que le système cristallin soit cubique, c'est le carré, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'ici, en Occident, nos trois premiers chakras, 1, 2, 3, le racine surtout, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Nous, on doit chaque fois ici, en Occident, travailler notre sécurité, tu vois. Dès qu'on ne va pas travailler un jour, on a l'impression qu'on va finir sur un pont. On est toujours dans des insécurités par rapport à l'amour, par rapport à l'argent, par rapport à tout. Chakra 2, pareil. Chakra de la créativité, compliqué, quoi. On est tout le temps dans nos têtes, on n'est pas dans nos tripes. Enfin... Et le chakra 3, pareil, la confiance en soi, la valorisation. Je trouve qu'ici, en Occident, c'est cata. Je trouve qu'on est trop occupé à vouloir ouvrir tout ce qui se passe là-haut, alors qu'en fait, je trouve qu'on est vachement tous connectés. Mais en bas, c'est cata. Contrairement à l'Orient, tu vas en Afrique, tu vas en Inde, j'étais en Inde il n'y a pas longtemps, bah, eux, en fait, les chakras 1, 2, 3, tout va bien. Tu leur parles d'insécurité, de ne pas savoir où dormir, ils vont dire bah, on dort dans la rue, c'est ok, tu vois. Ils n'ont pas du tout la même perception des insécurités, tu vois, par rapport au chakra de la créativité, la sexualité, tout ça, tout fonctionne à merveille chez eux. Pareil, potentiel, je veux dire, tu sais, même en Inde, il y a le principe des castes, en Afrique, tu as le chef du village, enfin, j'ai l'impression que tout le monde a sa juste place. Eux, à l'inverse, c'est les chakras du dessus qui sont très compliqués chez eux. Je me souviens, en Thaïlande, on était resté toute une journée dans un temple. Ils vont te chanter 20 heures de mantra pour peut-être choper une information. Tu vois, ils vont donner à manger de la farine à des fourmis parce qu'ils ont peur que Shiva, Ganesh, machin, tout. Enfin, ils sont complètement flippés avec leur chakra du dessus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut garder en fait les outils. Comment te dire? Chacun doit un peu utiliser ses propres outils. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas toujours convaincue d'utiliser des outils orientaux pour nous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chanter des mantras ni quoi que ce soit, tu vois, mais je pense qu'à eux, ça leur sert. Et moi, je ne m'occuperai pas trop de ce qui se passe là-haut, quoi. Je ferai le 1, 2, 3. Donc, je travaillerai avec des pierres cubiques. C'est l'ancrage. C'est vraiment assurer trouver notre sécurité dans nos insécurités, la valorisation de soi. L'argent, c'est l'art des gens. Comment est-ce qu'on peut vraiment donner une valeur à ce qu'on fait, notre plus-value, tout ça. Tu vois ou pas? Plus le bas. Donc, des pierres opaques. Pas trop des pierres, tu sais, transparentes ou translucides, justement, qui sont là pour réveiller. Moi, je trouve qu'on est tous connectés. Mais tous, les gens qui me disent j'ai envie d'augmenter mon taux vibratoire, bah, non, tu as envie de quoi qu'on te retrouve sur Pluton, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment les pieds sur terre. Et plus on va connecter le bas, plus on va s'aligner à ce qui se passe là-haut. Tu vois un peu? Sinon, comme je te dis, on nous a tous perdus. C'est pas le but. Donc, des pierres opaques, 2024, vraiment des pierres de Pâques, rouges, qui contiennent du fer. Le noyau de la terre est en fer et en nickel. Mais tu vois, le truc bien ancrant qui va nous permettre d'être à notre juste place pour arrêter de s'inquiéter. Et comme je te dis, quand on est à notre juste place, les objectifs nous trouvent. C'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a plus rien à faire, tu vois.
Magnifique. Merci beaucoup, Chloé. Tu as accepté notre invitation le 21 février à 20h. Je mettrai tous les détails en dessous du podcast. Merci beaucoup.
Je te fais un gros bisou. Merci pour ce partage. Parce que tout ce que je me dis, en fait, je me répète à moi-même. Et c'est toujours très, très gai de s'entendre. Donc voilà, ça fait toujours des mises au point. Prends bien soin de toi. Et on
Merci,
se retrouve
toi
tout
aussi.
bientôt. Bye bye.
Merci.